Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel, préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Exiger qu'Auschwitz ne se reproduise plus est l'exigence première de toute éducation. C'est une phrase qu'a prononcée Théodore Adorno en introduction d'une de ses conférences radiophoniques consacrée justement à l'éducation, il y a près de 40 ans, en avril 66. Et c'est une phrase qui pourrait décrire le programme de la Fondation du Camp des Mille, Mémoire et Éducation, dont nous recevons aujourd'hui le président, Alain Chouraqui. Le Camp des Mille, qui est situé entre Marseille et Aix-en-Provence, c'est un haut lieu de mémoire européen. Ce n'est pas seulement un lieu de souvenir, mais aussi un espace vivant d'éducation et de culture. Son parcours muséographique se déploie selon trois volets. Un volet historique, qui présente donc l'histoire du camp, entre 39 et 42, un volet mémoriel, c'est la visite des lieux historiques laissés en l'état, et un volet réflexif, enfin, qui permet aux visiteurs de comprendre les engrenages et les mécanismes humains qui ont conduit et peuvent conduire au pire. Le visiteur peut aussi visiter l'exposition nationale de Serge Klarsfeld sur les 11 000 enfants déportés juifs de France. Le 8 octobre prochain, vous inaugurerez en présence du président de la République, François Hollande, et de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, la chaire UNESCO, qui s'intitule exactement « Éducation à la citoyenneté, sciences de l'homme et convergence des mémoires ». Donc c'est une chaire qui est portée à la fois par l'Université d'Aix-Marseille et la Fondation du Camp des Mille, et qui est placée sous votre responsabilité scientifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette chaire UNESCO et à quoi elle doit servir exactement ?
Oui. Alors effectivement, nous allons procéder à cette inauguration et comme vous l'avez dit, en présence de hautes personnalités, car il nous semble que l'objet de cette chaire est un objet particulièrement difficile, mais surtout utile au présent. Utile au présent à la fois par les premiers mots de l'intitulé de cette chaire, l'éducation à la citoyenneté, ô combien nécessaire aujourd'hui, mais aussi par l'autre aspect de cet intitulé, qui est la convergence des mémoires, à un moment où nous voyons bien des crispations se faire sur des concurrences mémorielles, des concurrences victimaires, etc., qui sont à la fois indécentes, contre-productives, dangereuses, et ma foi, bien tristes à observer. Alors, de quoi s'agit-il ? Bon, une chaire UNESCO, c'est en réalité, comme peut l'être une chaire dans une université française, c'est une fonction universitaire qui est reconnue par l'UNESCO, mais qui a la particularité d'impliquer autour d'un responsable scientifique et en général d'une institution universitaire, mais dans notre cas particulier, pour la première fois, d'une institution universitaire et d'une institution culturelle, en l'occurrence mémorielle, la fondation du Camp des Mille. Donc c'est autour d'un responsable scientifique et d'institution, c'est un ensemble d'institutions universitaires qui se rassemblent pour à la fois travailler, réfléchir à un thème donné, en l'occurrence effectivement l'éducation à la citoyenneté éclairée par les sciences de l'homme et s'appuyant sur la convergence des mémoires, mais aussi et surtout pour trouver des moyens d'articulation entre ces éléments intellectuels de recherche et des actions de formation, de pédagogie. Donc, dans ce projet...
Il y a une dimension internationale, en fait.
Le propre de la chaire UNESCO.
D'accord.
Et en l'occurrence, 4 continents sont concernés, 12 pays sont concernés, une quinzaine d'autres sont candidats, d'ailleurs. Bon, à travers des universités, bien entendu, ou dans les candidats à travers des mémoriaux, et qui, précisément, tous souhaitent faire en sorte que la mémoire des souffrances humaines, des tragédies humaines, puisse être utile au présent et de façon, encore une fois, convergente et pas de façon concurrente. Bon. Cela signifie en particulier que, comme je l'évoquais la semaine dernière, on accepte l'idée que, certes, pour nous, en Europe en particulier, la Shoah a un caractère unique, extrêmement fort, par sa dimension et surtout par sa modernité, mais que l'on accepte aussi de comparer à d'autres génocides de façon à voir si les leçons de la Shoah, de cette histoire particulière et forte, sont bien des leçons universelles. Et pour bien comprendre la force de la Shoah, pour lui garder sa force dans l'avenir, il ne faut plus que la Shoah apparaisse comme un crime aussi extraordinaire soit-il, car avec le temps, évidemment, que ces particularités vont être quelque part banalisées, oubliées, gommées, au profit, j'allais dire, des derniers crimes du moment qui défilent à la télé en permanence. Bon. Donc nous, notre ambition, c'est d'ancrer de façon solide la Shoah comme une sorte de soleil noir éclairant l'humanité et pour longtemps. Et pour que ça éclaire toute l'humanité, il faut construire l'universalité de la Shoah. Événement particulier à portée universelle. Mais on ne peut l'affirmer que si effectivement on rapproche la Shoah d'autres événements tragiques et que grâce à la Shoah, on s'aperçoit que dans tous ces événements, un certain nombre de fonctionnements humains émergent. Au plan individuel, comme la soumission aveugle à l'autorité, l'effet de groupe, qui est extrêmement important, aujourd'hui en particulier, les stéréotypes et les préjugés, etc. Bon.
Vous voulez faire un peu avec la Shoah ce que Hannah Arendt avait fait avec le totalitarisme, en quelque sorte.
Je n'aurais pas cette ambition, mais
dégager... Les fondamentaux.
Oui, tout à fait.
D'un génocide, enfin.
Oui, d'une société susceptible d'aller jusqu'au génocide.
D'accord, ça va plus loin.
Oui, c'est qu'est-ce qui mène au génocide et qu'est-ce qui permet de l'arrêter aussi?
Du processus
absolument.
Génocide.
Quelles sont les caractéristiques des processus génocidaires, des processus individuels, collectifs et institutionnels? Et à partir de là, nous aurons des clés de compréhension et des clés de vigilance pour aujourd'hui. Parce qu'on pourra se repérer, vous l'évoquiez la semaine dernière, sur des schémas, si je puis dire, qui montrent quelles sont les étapes qui peuvent conduire au pire, et bien entendu les moyens d'y résister. Bon. C'est donc quelque chose qui nous paraît essentiel, encore une fois, s'assurer par la convergence des mémoires que les leçons de la Shoah sont bien des leçons universelles et des leçons qui éclairent le présent.
C'est ce que vous faites déjà sur le site.
C'est ce que nous faisons sur le site. Et c'est effectivement, cette chaire UNESCO, elle est complètement, bien sûr, dans la ligne intellectuelle, scientifique, morale, de la construction de ce site et de sa volonté d'éducation citoyenne depuis le début. Et d'ailleurs, cette chaire de l'UNESCO, je disais qu'elle recherchait des applications pédagogiques à cette approche intellectuelle. Ces applications pédagogiques, elles vont complètement dans le sens aussi de ce que nous faisons, en particulier à l'égard des jeunes scolaires, mais aussi des jeunes non scolaires, des jeunes des centres sociaux, des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire des jeunes délinquants, pour la plupart d'entre eux. Bon. Ça peut être aussi auprès de cadres d'entreprise, auprès de gendarmes ou de policiers, puisque nous avons des accords à cet égard, y compris à l'égard des polices municipales, dont on sait les difficultés et les responsabilités qui sont les leurs. Bon. Donc, tout cela, la chaire UNESCO, toute cette expérience, la chaire UNESCO, les potentialise ou va essayer de les concrétiser autour d'un dispositif qui est un dispositif que nous appelons un dispositif de labellisation. Bon, ce dispositif de labellisation, il consiste à pouvoir délivrer un brevet citoyen ou une habilitation citoyenne ou un label citoyen, je vais y revenir, à ceux ou aux actions qui vont dans le sens de la compréhension de ces mécanismes et donc dans le sens de l'appropriation des clés de compréhension que nous développons par ailleurs. Bon. Le brevet citoyen, j'allais dire comme tout brevet, c'est la reconnaissance d'un certain nombre de connaissances, de compétences, etc. Je n'entre pas dans les détails. L'habilitation citoyenne, c'est plus intéressant encore, me semble-t-il, puisqu'il s'agit là d'habiliter des personnes à l'intérieur de structures qui peuvent être des organes de presse, des entreprises, une librairie, une caserne de gendarmerie ou un établissement scolaire, ou tel individu, avec l'accord de sa hiérarchie ou de sa direction, sera volontaire pour devenir une sorte de relais sur place de ces outils, au fond, que nous avons mis au point et de ces approches que nous avons mises au point. Et puis, le label citoyen, alors là, c'est pour des actions. Lorsque une structure, un établissement scolaire, une association, etc., mettra au point, je ne sais pas, une série de conférences, des expositions, un outil pédagogique, une vidéo, etc., elle pourra se voir accorder ce label. Je dois dire que nous avons été très heureux il y a quelques semaines que Myriam El Khomri, qui était donc ministre de la ville, à ce moment de la jeunesse, non de la ville, elle n'est pas à cette époque, que Myriam El Khomri soit venue signer un accord qui nous lie à la DILCRA, donc à la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est la première convention passée dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Cette première convention donc a été passée entre l'État et nous-mêmes autour de ce processus de labellisation. Et donc le label, le brevet, etc. auront le tampon de la DILCRA en plus d'une autre. Bon, des discussions sont d'ailleurs en cours par ailleurs avec le défenseur des droits qui est très intéressé par ce processus et bien d'autres structures qui nous ont fait part avant même bien sûr que le dispositif soit en place de leur intérêt. C'est pour ça que nous l'avons mis en place d'ailleurs. Nous savions qu'un certain nombre de structures, de réseaux de toute nature, vous savez des réseaux de centres de vacances qui ont des animateurs qui veulent s'impliquer ou qui ou dont les responsables considèrent que les animateurs devraient s'impliquer dans bon
pour donc les motiver comme pour le, aussi comme
oui et puis c'est vrai qu'il y a des dérives partout, soyons clairs, hein, et que ces dérives, peut-être que la meilleure manière de les combattre, c'est aussi d'en parler, d'avoir en formation et en sensibilisation ces personnes et ces jeunes. C'est d'ailleurs de ce point de vue-là très stimulant pour nous. On a une fédération de centres de vacances de 200 animateurs qui sont venus avec leur style d'animateur, enthousiastes, dynamiques, sportifs, mais hyper attentifs à l'histoire que nous leur racontions, qui est cette histoire du camp d'Émile et de la Shoah, et aux leçons et aux enseignements que nous en tirons par notre approche pluridisciplinaire et intergénocidaire.
On a l'impression que votre mission d'éducation à la citoyenneté, qui était bien sûr antérieure aux attentats contre Charlie Hebdo et le supermarché Kacher, cette mission elle a pris tout son sens. Hein. En tout cas, vous êtes aujourd'hui, je dirais, à la faveur de ces événements, vraiment au centre du jeu. Vous avez eu la visite, donc vous allez avoir la visite de François Hollande, vous avez eu la visite de Myriam El Khomri, vous avez eu la visite du Premier ministre Manuel Valls, qui est déjà venu trois fois, qui est venu en février, donc trois semaines après les attentats, avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Et vous avez une compétence, vous avez une expérience déjà dans ce domaine et un lieu en plus qui peut accueillir toutes ces formations. Vous n'en avez pas parlé encore, mais il y a aussi toutes ces missions que vous faites dans les REP et REP plus, hein, c'est-à-dire les zones d'éducation prioritaire.
Oui, tout à fait. Écoutez, il y a vraiment des cas, et c'est le cas, où on est désolé d'avoir eu raison, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que, bien sûr que nos analyses nous poussaient à orienter le travail au site mémorial du camp d'Émile dans ce sens de l'éducation citoyenne, mais très franchement, nous appelions nos actions, nous les labellisions parfois du terme de mémoire pour demain, et nous n'avons jamais imaginé que demain soit si vite aujourd'hui. Alors c'est bien mémoire pour aujourd'hui maintenant, c'est vrai, nous en sommes tristes, mais aussi complètement boostés et motivés, d'autant plus motivés si vous voulez. Et c'est vrai qu'après le 11 janvier, nous avons pris un certain nombre d'initiatives. La première, on l'a évoqué la dernière fois, c'était d'accélérer la parution du livre Pour résister.
On a parlé la semaine dernière dans une précédente émission, pour résister à l'engrenage des extrémistes, des racismes et de l'antisémitisme.
Et la deuxième initiative que nous avons prise, c'est une initiative de réunir les mémoriaux qu'ils souhaitaient, français ou étrangers, pour réfléchir à la manière de relier mémoire, histoire et éducation citoyenne. D'ailleurs, ces mémoriaux seront associés, s'ils le souhaitent, à la chaire de l'UNESCO pour être inclus à cette dynamique et contribuer, s'ils le veulent bien, à cette dynamique, y compris, s'ils le souhaitent, à la dynamique de labellisation. Bon,
Alors, je profite pour vous interrompre sur les mémoriaux. Vous insistez sur cette notion de mémoire référente, c'est ça, par rapport à... En opposition à la mémoire révérence, justement.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mémoire doit être couplée à l'action ou à l'éducation.
Oui, oui, c'est vrai que nous utilisons, j'utilise souvent l'expression mémoire référence complémentaire de la mémoire révérence. Bon, la mémoire révérence... bon, évidemment, c'est un jeu sur les mots, mais ça n'est pas que cela. La mémoire révérence, c'est une mémoire exclusivement tournée vers le passé, qu'il faut avoir. Nous devons révérence aux souffrances passées, évidemment. Mais il nous semble que cette mémoire, aussi légitime soit-elle, peut être complétée, je dirais même aujourd'hui doit être complétée, par une mémoire référence pour le présent. Et au-delà des mots, ça veut dire... une mémoire, un travail de mémoire qui construit effectivement la mémoire comme référence et très précisément qui tire de cette histoire et de ces mémoires des clés de compréhension, des clés de vigilance très précises. Oh, je peux en donner quelques-unes tout de suite hein, de clés pour que l'on voit bien les choses. La première leçon, par exemple, que l'on peut tirer, c'est que le racisme et l'antisémitisme ont un potentiel explosif et contaminateur. J'enfonce une porte ouverte, mais il est important de savoir que dans un régime démocratique, dans un fonctionnement politique, lorsque ces éléments-là prennent beaucoup de place, alors là, on se retrouve devant des dynamiques immaîtrisables qui ont été déclenchées par des gens, des partis extrêmes ou pas, qui n'ont peut-être pas voulu cela, mais qui se retrouvent dans ces dynamiques. D'où l'importance de réagir vite et fort et de façon ferme, de façon à empêcher cette dynamique de s'enclencher et donc d'aller vers l'immaîtrisable. Alors l'immaîtrisable, on m'a souvent dit, c'est pas pour ça que ça va. Oui, bien sûr, c'est pas pour ça que ça va aller jusqu'au bout nécessairement. Mais quand c'est immaîtrisable et qu'au bout il y a la vie de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos proches, peut-être qu'on prend pas ce genre de risque majeur. On a déjà donné. Bon, c'est une première leçon. La deuxième leçon. On l'a évoqué la semaine dernière, et c'est le fait que un parti autoritaire peut arriver au pouvoir avec une minorité de voix. Bon, à condition effectivement que la majorité soit passive. Bon, c'est quelque chose qui me semble tout à fait important à souligner. Il y a ainsi plusieurs. Je pense aussi au fait que des alliances permettent souvent à ces partis d'arriver au pouvoir. Il y a toute une série d'éléments que nous voyons dans l'histoire, les provocations, le rôle des provocations. On sait bien que lorsque les choses sont borderline, si je puis dire, pour la démocratie, il y a l'incendie du Reichstag, ou bien il y a l'avion du président rwandais qui est descendu, qui est abattu, pour déclencher les choses. Bon, méfions-nous des provocations compris dans notre pays, il y a eu des périodes en Italie, la stratégie de la tension, on sait ce que ça a pu être, et il y a des moments où ça peut tenter certains extrémistes. Voilà. D'autant plus lorsque les extrémistes s'alimentent les uns les autres et qu'au bout d'un moment, on ne sait plus qui fait quoi, qui fait faire quoi, qui fait semblant de faire au nom de qui, etc. etc. Bon. Voilà, donc tous ces éléments, il y en a plein d'autres, bien sûr, qu'on trouve dans le livre et qu'on étudiera dans la chaire UNESCO, me semblent pouvoir être utiles au présent.
Vous dites d'ailleurs, ce qui est recherché, là je lis le fascicule du Camp des Milles, ce qui est recherché, ce n'est pas que le visiteur, en particulier le jeune visiteur, sorte du site mémorial accablé devant la noirceur des persécutions, mais qu'il prenne conscience, éclairé par ce passé tragique, chaque homme ou chaque femme peut mobiliser ses qualités de vigilance et de résistance et sa responsabilité en tant que personne face à l'autre et en tant que citoyen dans la société. Donc c'est important.
Très belle phrase là, que vous avez citée.
Oui,
hein. Elle est de nous. Donc
bon. Mais je trouve que ça résume bien quand même la philosophie de la visite.
C'est vrai, mais pour dire ça de façon encore plus simple, nous avons failli mettre sur le grand mur, à l'intérieur quand même, du site mémorial, le mur d'arrivée, nous avons failli mettre « Yes, you can ». Parce que c'est bon, on l'a pas fait pour des raisons que vous devinez.
Donc mais vous avez mis comprendre pour agir.
Alors, on a mis comprendre. C'est vrai. Mais c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on termine aussi par ce mur des actes justes. Parce que, nous souhaitons qu'à la sortie, comme vous l'avez dit, les jeunes se sentent capable de faire quelque chose, conscient qu'il y a quelque chose à faire, donc ça veut dire que les choses sont quand même pas faciles et brillantes, mais conscient qu'ils peuvent faire quelque chose. Bon, et ça nous paraît vraiment l'essentiel de ce qu'on peut transmettre aujourd'hui.
Alors pour finir sur tout ce qui s'est passé depuis le 11 janvier, la semaine dernière, vous avez également eu le premier forum.
Oui, c'est un premier forum annuel
organisé avec Le Monde, c'est ça que vous nous en dire un mot.
Oui, c'est un forum annuel qui s'intitule Démocratie, Mémoires et Vigilance et qui a vu deux journées. Une première journée qui s'est construite autour d'un appel national lancé par les quatre grandes associations nationales, l'ICRA, SOS Racisme, Ligue des Droits de l'Homme et MRAP.
Vous avez réussi à réunir pour la première fois.
Oh, c'est pas la première fois, non, mais bon, c'est vrai que c'est bien que dans le contexte actuel, l'ensemble des militants antiracistes se réunissent et affirment les choses de façon forte. Et puis, le lendemain, ce sont les cheminots du comité d'établissement SNCF PACA, qui est le plus gros comité d'établissement de France, qui se sont mobilisés depuis deux ans pour la restauration d'un wagon souvenir, qui ont rassemblé des fonds conséquents, 100 000 euros, des cheminots, un comité d'établissement d'ailleurs qui est présidé, dirigé par la CGT actuellement, et qui se sont donc rassemblés pour nous offrir cette restauration. Et l'inauguration a eu lieu donc le lendemain de cet appel national. Beaucoup de jeunes syndicalistes ont été rassemblés et pour nous c'est très encourageant de voir l'ensemble des secteurs de la société se réunir, de la même manière qu'une déclaration interreligieuse sera présentée autour du thème de la fraternité, une déclaration nationale partira du camp des Milles le 29 novembre et que nous espérons là aussi contribuer à rapprocher des identités qui peuvent parfois être meurtrières.
Le site mémorial est ouvert depuis trois ans déjà. On vous avait d'ailleurs reçu peu de temps avant l'ouverture. Il accueille chaque jour, je crois bien, 300 scolaires, ce qui représente...
Non, ça serait trop bien.
Ça serait trop bien. Alors,
non.
J'avais 40 000 scolaires.
Oui, 40 000 scolaires par an, c'est déjà pas mal sur un ensemble de 80 à 100 000 visiteurs. Tout dépend si on compte les visites gratuites, etc. Enfin bon, j'entre pas dans les détails. Non, de ce point de vue-là, c'est une grande satisfaction, d'autant plus que les nombres s'accroissent lentement et sûrement, d'autant plus que nous ne pouvons pas accorder la visite gratuite. Donc ça veut dire que c'est tout de même un frein, notamment pour certaines écoles de milieux défavorisés, et c'est une difficulté. Donc nous ne sommes pas non plus au centre-ville, hein. Il fallait pas que les camps soient trop visibles, donc le mémorial du coup n'est pas non plus le plus visible qui soit, mais il demeure que nos différentes les différentes actions que nous menons, les actions culturelles aussi, parce que nous essayons de faire comprendre par la raison scientifique l'histoire et les autres sens de l'homme, mais nous essayons aussi de faire comprendre par la sensibilité artistique, par des expositions, par du théâtre, parfois par de la musique. Je pense notamment au London Symphony Orchestra qui est venu encadrer des jeunes des quartiers nord de Marseille pour qu'ils composent ensemble des portraits musicaux d'internés. Et ils étaient 200 avec leur tam-tam, pour beaucoup d'entre eux, à vivre cela. Et les musiciens du London nous disaient qu'ils avaient rarement vu des gamins aussi motivés par le temps qu'ils avaient passé au camp des Milles. Bon, bref, tout ça, effectivement, ça crée un certain rayonnement. Mais c'est important pour une raison simple. L'image du camp des Milles, c'est évidemment, pour ceux qui le connaissent, avant tout l'image d'un camp. C'est-à-dire dissuasif pour énormément de gens. Dissuasif. Soit parce qu'ils croient connaître, y compris d'ailleurs parmi les Juifs, qui sont tous surpris quand ils viennent d'apprendre et de découvrir énormément de choses. Bon. Et puis pour plein de gens qui n'ont pas envie, dans une période difficile, de crise, etc., d'aller dans un lieu triste, tout simplement. Et lorsque, malgré cela, ils viennent, combien nous disent, si on avait su que c'était un lieu d'espoir, un lieu où on éclaire effectivement le présent et où on voit aussi le bon côté de l'humanité, eh bien, on serait venu plus tôt.
Merci Alain Chouraki. Donc, nous incitons nos auditeurs à se rendre au plus tôt au camp des Milles, et à lire aussi pour résister à l'engrenage des extrémismes, des racismes et de l'antisémitisme, qui reprend une partie du contenu du volet réflexif présenté sur le site, où se tiendra une grande exposition à partir de la mi-novembre sur le génocide des Arméniens.
Oui, soutenue par la Fondation Mémoire de la Shoah, comme avait été soutenue l'exposition Rwanda l'année dernière.
C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.